Boris Johnson a annoncé la libération de deux touristes britanniques qui avaient été enlevés vendredi dans le parc national des Virunga dans le Nord Kivu en RDC. La direction du parc des Virunga a confirmé la libération des touristes et du conducteur qui avaient été victimes d'une attaque de leur véhicule. Les autorités congolaises travaillent avec le ministère pour le rapatriement des deux Britanniques. Selon la presse locale, l'armée congolaise avait rapidement pris des mesures pour retrouver les trois disparus. Le ministre et Emmanuel de Mérode, directeur du parc, ont fait un hommage à la famille de Rachel Makissa Baraka, une garde congolaise tuée lors de l'enlèvement alors qu'elle protégeait les passagers et le conducteur. En Libye, au moins 8 personnes ont été tuées et 18 blessées ce week-end lors de combats entre tribus rivales à Sheba, portant le bilan de ces heurts à 31 morts et 121 blessés en 2 semaines, selon une source hospitalière. Les combats ont gagné en intensité samedi pour le contrôle de la citadelle surplombant la ville. Samedi soir, la mission de l'ONU en Libye a exprimé son inquiétude et appelé à la retenue et à la reprise du dialogue. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale, a appelé un cessez-le-feu immédiat et dit qu'il rencontrerait des représentants du Sud pour parvenir à un règlement et une réconciliation. Deux policiers de la sécurité nationale égyptienne accusés d'avoir torturé à mort un avocat en 2015 ont été acquittés par une cour d'appel du Caire. Ils avaient été condamnés à 5 ans de prison en première instance pour avoir torturé à mort maître Karim Hamdi dans un commissariat. Le ministère de l'Intérieur avait à l'époque indiqué que l'avocat était soupçonné d'appartenance à une cellule terroriste. Maître Hamdi avait été arrêté pour sa participation à une manifestation de soutien aux frères musulmans. L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a inscrit son 32e but en Premier League, s'emparant du record du plus grand nombre de buts sur une saison dans un championnat d'Angleterre à 38 matchs. Désigné plutôt meilleur joueur de l'année, il a marqué 44 fois en 51 matchs, toutes compétitions confondues.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Des dizaines de milliers d'Israéliens ont marché ce dimanche à Jérusalem à la veille de l'ouverture sous haute tension de l'ambassade des États-Unis, chantant au son de la chanson Toy qui a remporté l'Eurovision la veille. Les marcheurs, essentiellement des jeunes nationalistes religieux, devaient rallier le mur des lamentations dans la vieille ville. Lundi, les États-Unis inaugurent leur ambassade à Jérusalem, coïncidant avec le 70e anniversaire de la création d'Israël en 1948. Des milliers de Palestiniens sont attendus le même jour à la frontière entre la bande de Gaza et Israël pour protester contre l'installation de l'ambassade. Un millier de policiers vont sécuriser l'ambassade et ses alentours et l'armée va doubler ses effectifs autour de la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le président américain Donald Trump a indiqué travailler avec son homologue chinois Xi Jinping à une solution pour donner aux géants chinois des télécoms un moyen de reprendre rapidement ses activités. Le département du commerce a reçu l'ordre d'y parvenir, a tweeté M. Trump au sujet de ZTE, dont l'activité est perturbée par l'interdiction de toute exportation de composants américains destinés au groupe chinois pendant 7 ans. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré dans un entretien diffusé sur Fox News que les États-Unis sont prêts à offrir des garanties à la Corée du Nord concernant sa sécurité si Pyongyang abandonne son arsenal nucléaire. Il a par ailleurs affirmé qu'il comptait travailler dur avec les Européens afin de parvenir à un nouvel accord pour contrer le comportement néfaste de Téhéran selon ses termes et après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Sur la question du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, il a estimé qu'un accord de paix israélo-palestinien était tout à fait possible après ce déménagement. Nous y travaillons dur, a-t-il déclaré.
Sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Heureux de vous retrouver dans ce dialogue des religions de ce soir pour parler des droits de la femme dans le monde musulman, notamment en Arabie Saoudite. Eric Manilakiza est avec vous et merci d'être à l'écoute. Les Saoudiennes pourront conduire à partir du 24 juin prochain. Des auto-écoles pour femmes ont été mises en place dans 5 grandes villes du royaume. Les Saoudiennes détentrices de permis étrangers pourront les échanger contre des documents saoudiens. L'Arabie Saoudite est le seul pays au monde qui interdisait jusque-là aux femmes de prendre le volant. Ce royaume ultra-conservateur musulman s'est engagé dans une série de réformes qui visent à une plus grande participation des femmes dans la vie économique et sociale. Les femmes peuvent désormais ouvrir leurs propres entreprises et assister à des matchs de football ou à des concerts. Les cinémas ont rouvert après 35 ans d'interdiction et les projets de divertissement se multiplient. Mais les Saoudiennes restent encore soumises à un système de tutelle masculin. Elles ont ainsi besoin de l'accord d'un homme de leur famille pour voyager, étudier ou exercer certains métiers. D'après vous, les réformes déjà engagées sont-elles suffisantes pour la femme saoudienne ? Que pensez-vous de la condition de la femme en Arabie Saoudite qui n'est pas imposée dans d'autres pays musulmans ? Voilà les questions qui vous ont été soumises sur votre page Facebook. C'est l'occasion d'en discuter. Vous avez aussi émis vos commentaires sur la page Facebook et vous pouvez aussi nous appeler sur le +1 202 205 26 33. Pour en parler, je suis en ligne avec Daouda Doumbia. Il est en Arabie Saoudite. Monsieur Doumbia, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Et bienvenue dans ce dialogue des religions.
Oui, ok.
Ici à Washington, je suis avec ma collègue Kadiatou Traoré. Bonsoir Kadi.
Bonsoir Eric. Un grand coucou à tous les auditeurs de Dialogue Religion qui avaient l'habitude même de m'écouter parce que j'étais assez fréquente là sur le plateau, mais je ne le suis plus, mais ce n'est que partie remise. Mm-hmm. Je reviens. Et un grand coucou à Daouda Doumbia aussi depuis Jeddah en Arabie Saoudite.
Qui est
Daouda,
votre compatriote.
Bonjour. Ah oui, il est malien et on est tout fiers de lui.
Oui. Daouda, un bonjour à Kadiatou.
Alors oui, nous entendons. Bonjour, bonjour à vous à Washington.
Bonjour Daouda.
Vous pouvez dire bonjour aussi en Bambara. Hein. Mm-hmm. Hein? Comment on dit bonjour en Bambara?
Je ne sais pas quelle heure est.
Il est 22h là-bas.
Bon, Inissou. Voilà.
Daouda?
Oui.
Inissou. Voilà le premier mot Bambara que je viens d'apprendre. Voilà. Monsieur Doumbia, vous êtes témoin de ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est une grande révolution, n'est-ce pas? Et comment les femmes saoudiennes jouissent déjà de cette avancée?
Bon, ce qu'il faut d'abord retenir, je dirais que cela va dans le sens de l'application de l'autorisation de conduire avancée aux femmes, accordée du droit aux femmes. Et vous savez que c'est une ouverture, disons, il y a eu des ouvertures précédentes avant cela. Et le changement de certains statuts de la femme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des précédentes comme le droit de travailler, d'élire et aussi bien d'être éligible à des élections. Mais tout ça, c'est, disons que ça va dans le sens des réformes plus ou moins qui étaient déjà entamées.
Y a-t-il des résistances qui ne veulent pas de ce droit au profit de la femme, par exemple?
Mais même si cela s'avère pratiquement, je crois que ici, ça ne peut pas du tout se poser à une décision, disons, des autorités, une décision royale, entre guillemets, parce qu'il y a eu un décret dans ce sens. Mais pratiquement, on ne voit aucune décision. Et ce qu'il faudrait aussi comprendre, mais la lutte pour, disons, le combat pour autoriser la conduite des femmes n'a pas commencé aujourd'hui. Mais il y a plus de 10 ans déjà que, disons, c'était en cours, mais l'accélération et la réforme à appliquer directement vient de ce jeune prince héritier qui veut moderniser son pays.
Monsieur Doumbia, est-ce qu'il y avait-il un lien entre la religion musulmane et cette interdiction?
Bon, dans un certain sens, je ne dirais pas qu'il y avait un lien. Mais vous savez, les Saoudiens ne sont nullement impressionnés par des renouveaux ou des tendances culturelles exogènes à leur culture. Et ça, c'est pendant tout le domaine presque. Ils n'adaptent pas des valeurs d'ailleurs à leur culture, mais plutôt respecter et faire prévaloir les leurs. Et ça, c'est tout à leur honneur. Donc, je veux dire par là que c'est pas parce que le monde extérieur est dans une voie ou dans un sens de standard de vie que les Saoudiens empruntent le même chemin. Non, c'est des gens très, très fiers de leur culture et de leurs valeurs. Et c'est ce qui. Tout le monde va dans ce sens.
Gardez l'écoute, monsieur Doumbia, restez avec nous. Kadiatou, vous êtes musulmane, mais vous n'avez jamais eu aucun problème pour conduire.
Jamais. Jamais, parce que, comme Daouda vient de le dire, là, c'est peut-être sur un fond de culture qu'on donne, on octroie, tu vois, un peu un rôle à la femme dans, selon les religions. Eric, tu le sais, aussi bien que tout le monde, que les religions, c'est vrai que Dieu est au centre d'intérêt des religions, mais quand même, ils ont été mis en place et les règlements intérieurs de toutes les religions ont été mis en place par des hommes. Donc, vu du statut que la femme avait dans certaines sociétés, ils ont voulu vraiment donner, même pas que la femme avait, parce que quand je regarde un peu le cas africain, il y a l'histoire qui nous a démontré qu'il y avait des sociétés matriarcales et dont les femmes avaient la voix là-bas. Et quand l'avènement des religions sont venus, on a essayé de leur retirer les autorités aux femmes et donner une image plus forte aux hommes. Donc, le roi, je pense que c'est un jeune roi et qui veut vraiment que son pays soit ouvert sur le monde entier. Et avec tout ce qui se passe actuellement, je veux dire, cette crise de la montée de l'extrémisme violent, dont à un moment l'Arabie Saoudite avait été vraiment accusée et par tant de personnes à travers le monde, tant de décideurs à travers le monde, à travers aussi, tu vois, le support qu'il avait donné un peu au Qatar et qui était venu vers chez nous essayer de mettre des choses en place dans la zone sahélo-sahélienne et tout ça, je pense que ça va lui donner quand même une certaine crédibilité auprès de ses pairs, à un niveau international aussi, quoi. Parce que là, tout le monde est unanime là-dessus maintenant qu'il faut faire une ouverture pour les femmes et qu'il n'y a pas de différence biologique entre... humainement, quand on regarde, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme.
On va recevoir un auditeur qui est en ligne, c'est Hassan Omar Boulalé. Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est très, très important aussi. D'abord, c'est à féliciter les autorités saoudiennes d'avoir permis l'avancée de la femme saoudienne et la femme en général. Mais ici, ce qu'il faut dire, c'est l'islam toujours a honoré, mais on est toujours, il a honoré toujours la femme, parce que c'est même le noyau de la société, le noyau du monde. Donc, c'est l'interprétation peut-être qui pose problème, parce que chacun interprète les textes coraniques ou les textes qui sont divins de façon qui sont opportuns pour lui, mais dans le Coran c'est signalé la femme est de place capitale, prioritaire, elle est même le socle de la vie. Donc voilà ce que je voudrais dire. Mais ce qui est très important aussi, si on prend des versets coraniques qui qui sont vraiment impressionnants lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on lit, on écoute et on dit comment vous pouvez, par exemple, dans le divorce, le Coran dit comment vous pouvez chasser la femme du foyer, elle qui vous a donné de son intimité. Donc, Dieu parle de donner plus d'opportunités de sauvegarder, de protéger la femme. L'islam protège la femme. C'est ce qui est très important. Mais peut-être les gens vont prendre des interprétations et des préjudices à l'encontre de la femme. Nous, on est contre ça. Et c'est la félicité. Et ça, dans cette voie-là, la démocratie doit régner dans le monde, surtout dans le monde arabe. Et on avance, la femme doit avancer dans le monde arabe et en Afrique aussi. Et l'islam protège, c'est ça, c'est sûr. Et je dis vive la femme du monde, si on peut dire ça, vive la femme en général.
Merci, Hassan, pour votre contribution. Nous avons également Yao Marcelin Kofi en Côte d'Ivoire. Yao, bonsoir.
Bonsoir, Eric. Et bonsoir à tous les auditeurs de la République.
Nous vous écoutons.
Bon, je pense que le roi Salman a fait des réformes vraiment de grande envergure. Et ces réformes, vraiment, ça s'avérait comme une nécessité. Parce que vu la modernisation de parce que c'est dans son action, il a entrepris une modernisation du royaume. Avec des révolutions, c'est une révolution vraiment qui va vraiment à l'encontre de toutes les femmes musulmanes. Hein, parce que l'Arabie Saoudite est vraiment est considérée comme vraiment la terre, vraiment la substance même de l'islam. C'est donc toutes les décisions qui viennent d'Arabie Saoudite sont supposées vraiment être les meilleures décisions. Donc bon, quand on restreint vraiment la liberté à des femmes, vraiment c'est un peu, y a de quoi à réagir, y a de quoi réagir, y a de quoi dire. Vraiment le roi aussi a vraiment a vu juste et vraiment il a en train de rectifier les tirs et vraiment lui saluer ses actions. Mais je crois que c'est réellement, il se pose à vraiment une réaction aussi de ses concitoyens. Parce que les gens voient un peu, pas les réformes, mais ils voient un peu les préceptes de l'islam. Parce que je remarque qu'il y a un lien entre ces restrictions et les préceptes islamiques. Ça n'est pas lié. Forcément, il y a un lien. Donc, je remarque alors que c'est un royaume qui est ultra conservateur. Donc, comment est-ce que réellement il doit pouvoir vraiment engager cette réforme-là?
Yao?
Vraiment de manière.
Yao?
Oui.
Gardez la ligne, on va écouter notre invité qui est en Arabie Saoudite. C'est Doumbia qui nous a dit qu'il n'y a pas nécessairement de lien avec la religion. Monsieur Doumbia.
Allô, oui?
Oui.
Allô?
Oui, que diriez-vous à Yao?
Autoriser les femmes à conduire, mais ça n'a pas du tout de lien avec la religion. Ce qu'il faudrait savoir, observer une jurisprudence ne veut pas dire s'imposer une contrainte. Chaque société a ses traditions et ses réalités et sa culture. En ce sens que respecter les préceptes de l'islam ne signifie pas du tout être incompatible avec les lignes de conduite de vie. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Si les femmes n'étaient pas d'abord autorisées à conduire, cette décision ne relève pas du tout d'une contrainte islamique, non. Mais par jurisprudence d'une société qui est le berceau de l'islam, alors il y a certaines sortes d'ouvertures à travers le monde qu'on ne pourrait pas brusquement pratiquer et appliquer ici. Et comme je l'ai dit au début, les Saoudiens aussi ne sont nullement impressionnés par des valeurs étrangères exogènes à leur société. Pas du tout. Absolument pas du tout. Et ça, c'est tout à leur honneur, je le répète.
Cette précision est très importante. On va revenir vers vous, Yao Marcelin, merci. Vous avez entendu qu'il n'y avait pas vraiment de relation entre cette interdiction et la religion musulmane. Nous avons Mahamadou Traoré qui est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les auditeurs.
Vous avez la parole.
Bien, au fait, la réforme saoudienne, elle est salutaire. Salutaire pourquoi? Puisqu'elle permet à la femme de s'épanouir et de mieux gérer son loisir. Mais tout de suite, je reviens à ce qu'a dit le premier intervenant qui est en Arabie Saoudite. Il dit que c'est cette réforme n'a absolument rien à voir avec la religion. Donc moi, je ne suis pas tout à fait pour. Puisque quand on regarde la religion, il y a une certaine autonomie que la femme a, mais elle est privée d'autres de loisirs ou bien d'être dans une foule où il y a vraiment l'abondance des hommes. Donc dans la religion, il y a cette pratique-là. Mais en réalité, le prophète, moi je suis musulman, je suis pratiquant musulman, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, disait que la femme n'est pas une esclave sexuelle à qui nous prenons chaque fois notre point de vue sexuel, mais plutôt la femme, dans la religion, la femme dépasse même l'homme, puisque c'est la femme qui se soumet à l'homme, mais l'homme est au front, l'homme est à la quête du bonheur perpétuel pour la femme. Donc cette réforme, elle est sanitaire, elle est sanitaire, puisqu'elle permet à la femme saoudienne de s'épanouir et de mieux gérer ses loisirs.
Merci Mamadou pour votre contribution. Nous revenons ici à Washington. Kadiatou, juste un
commentaire. Moi, ce que j'avais à dire par rapport à tout ça, est-ce que cette réforme-là va avoir un impact sur la religion musulmane à travers le monde, du moment que l'Arabie Saoudite a un rôle, tu vois, de dirigeant dans ce monde musulman, est-ce que ça fera que les autres pays musulmans vont commencer à repenser le statut de la femme, à repenser les droits de la femme du point de vue religieux? Je vais citer un exemple bien concret qui s'est passé en 2013, c'était en mars 2013. Il y avait les sénateurs nigériens, ils ont rejeté en seconde lecture une proposition de loi visant à éradiquer le traitement inhumain, humiliant et dégradant réservé aux femmes du pays. Et cette proposition visait notamment à octroyer des droits aux femmes en matière d'éducation, d'héritage, de mariage, dont le droit pour une veuve d'hériter des biens de son mari. Les sénateurs ont justifié leur proposition au texte par le fait que celui-ci serait contraire aux préceptes religieux de la Bible et de la charia en même temps. Donc c'est quelque chose qui ne concerne même pas seulement la religion musulmane.
Oui, ces restrictions qu'on voit en Arabie Saoudite sont excessives, mais on ne le voit pas dans le reste des pays musulmans. Et pourtant, il y a toujours des rencontres. Pourquoi les autres pays, par exemple, n'osent pas critiquer ouvertement ce qui se passe là-bas?
Oh, ça vraiment, je ne sais pas. Ça c'est un autre débat, Eric. Ça c'est un autre débat.
Saoudiens.
Non, c'est pas qu'ils reçoivent les fonds saoudiens. C'est pas ça. C'est parce que vous savez que c'est le rituel, le lieu, Daoura peut donner même des explications sur ça, il peut me compléter sur ça. Du moment que nous, les musulmans, le monde musulman va et qu'il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu toutes ces choses-là, il est là-bas, il est couché là-bas. Les autres pays musulmans ne voient pas l'Arabie Saoudite en tant qu'un pays où il faut critiquer. On prend l'exemple surtout sur l'Arabie Saoudite.
Mais ces pays n'ont pas pour autant interdit aux femmes de conduire.
Non, ils n'ont pas interdit aux femmes de conduire. Ça, c'est une laïcité que ces pays qui ont été colonisés, par exemple, quand je parle des pays musulmans africains...
Donc,
qui ont
placé les femmes sous la tutelle masculine.
La colonisation a trouvé que les gens étaient déjà musulmans. Et donc, pour faciliter cette colonisation, ils sont rentrés avec d'autres concepts. Ils ont rallié, tu vois, le traditionnalisme et puis à la religion.
Nous avons un autre auditeur, David Akumbu. Bonsoir. David.
Oui, je vous écoute. Bonsoir.
Vous avez la parole, très rapidement.
Oui, très rapidement. Je vous dis toujours que notre Dieu a créé les cieux et la terre. La Bible est claire. Moi, je ne connais pas comment ça se passe dans l'islam. L'homme et la femme étaient tous égales. Je pense que lorsque l'on réfléchit les libertés d'une femme qui est égale à l'homme, ce n'est pas normal. Je ne sais pas quelle est cette religion qui va faire en sorte que la femme ait tendance à considérer toujours le dernier de la société. Non, la femme, nous nous parlons de l'égalité de chance, la femme comme l'homme doit avoir les mêmes capacités, les mêmes possibilités. La preuve, nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui qui occupent des emplois que des hommes.
Notre...
Mais dans le côté musulman, je n'ai jamais compris cette caricature-là qui conduit toujours à s'insister, à faire en sorte comme si la femme n'avait pas droit à la parole face à l'homme.
Ah, okay.
Dieu n'a pas créé le monde comme ça.
David, Merci beaucoup de votre contribution. Nous retournons en Arabie Saoudite pour rencontrer Doumbia. Doumbia, il y a aussi des lois qui sont en train d'être mises en place et qui protègent la femme, notamment si un homme veut espionner sa femme en regardant dans son téléphone, si elle a, je ne sais pas, des, ce qu'on appelle des deuxièmes bureaux. Doumbia? Allô?
On l'a peut-être perdu.
Doumbia, est-ce que vous êtes là?
Non, on l'a...
Daouda Doumbia, je ne sais pas si... Monsieur Doumbia, est-ce que vous nous entendez? Il y a un problème avec la connexion téléphonique. On va essayer de rétablir la communication. Kadiatou, la femme musulmane n'est pas la seule victime de la religion. Une femme chrétienne ou animiste est aussi soumise à certains interdits. Vous allez répondre à cette question tout de suite. Je m'en fais signe que Doumbia est déjà là. Doumbia, vous êtes là? Ah, Guillaume Valentin, c'est un auditeur. Bonsoir.
Ouais, bonsoir, comment ça va?
Ça va très bien, vous avez la parole, très rapidement.
Ok, moi je dirais que cette volonté des autorités de l'Arabie Saoudite montre déjà l'autonomisation de la femme, car en Arabie Saoudite, avant même, c'était interdit pour une femme de monter. De monter la moto et derrière moi, il avait des critiques pour accepter. Maintenant, aujourd'hui, on le dit d'aller suivre le match, ils peuvent ouvrir leurs propres entreprises. J'espère que c'est une bonne idée, ce qui donne un peu de valeur aux femmes. Comme ça, ils peuvent avoir aussi l'idée de crédibilité. Même leurs entreprises qu'ils peuvent créer, ça peut aider les hommes, aider les hommes à nourrir la famille et ça peut aussi. Je suis contre le chômage des jeunes qui augmente de nos jours.
Merci Guillaume pour votre contribution. Kadiatou, je disais tantôt que la femme musulmane n'est pas la seule victime de la religion. Une femme chrétienne ou animiste est aussi soumise à certains interdits.
Absolument. Moi, je pense que vraiment, il faut arrêter d'opposer les droits des femmes à la religion comme deux principes antagonistes, Eric. L'existence du féminisme dans la religion musulmane et dans la religion chrétienne démontre qu'il n'y a pas d'autonomie entre la pratique d'une religion et le désir d'émancipation. Parce que les femmes, quand on regarde l'histoire quand même des grandes religions monothéistes, on a vu que il y a des femmes qui se sont illustrées et elles ont joué un rôle assez capital. Ça, c'est partout. Et dans les sociétés traditionnelles aussi, on avait des sociétés matriarcales. Beaucoup de sociétés étaient matriarcales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les femmes qui avaient le contrôle de ces sociétés. Mais les hommes ont fait, on a remarqué que les hommes ont fait de cette religion, tu vois, leur chasse gardée. Et quand David disait que la Bible dit que il y a pas de différence, mais tout le monde est unanime là-dessus. Toutes les religions ont dit que, et au départ, c'était Adam et Ève, que Ève est sortie des côtes d'Adam.
Nous avons Doumbia qui est là. Monsieur Doumbia, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Très rapidement, en 30 secondes, il y a une loi qui maintenant punit un homme qui veut espionner sa femme, notamment en regardant dans son téléphone si sa femme a un amant. En Arabie Saoudite, ça a été fait récemment.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il y a quand même une certaine protection, entre guillemets. Mais ça, c'est pas que les femmes seulement, hein, mais c'est tout le monde. En quelque sorte, la propriété privée, la confidence et la confidentialité de l'individu, tout ça. Mais avant que ce ne soit coupé, la communication ne soit coupée, je voudrais rebondir sur ce que déclarait un de vos auditeurs.
Rapidement, en 10 secondes.
Je n'ai pas d'accord au-dessus, oui.
En 10 secondes, très rapidement.
Oui. Bon, donc tu disais qu'il n'est pas d'accord sur, disons que le statut de la femme ici. Il ne faut pas voir dans les
d'or turc, ce que Dukin interprète comme modernisation, même ça, c'est à relativiser. L'Arabie Saoudite est déjà un pays moderne sur tous les plans pratiques de la vie.
Merci.
Des outils de travail, des infrastructures et tout.
Merci.
Je dirais seulement, pour répondre à cette question-là, comment les femmes doivent faire, je dirais seulement que les droits des femmes est un principe universel non négociable et qui ne saurait être subordonné à des interprétations du texte sacré qui, en substance, prône la tolérance et l'égalité, Eric. Donc, nous sommes déjà organisés pour défendre nos droits et qu'on nous laisse.
Merci beaucoup à Kadiatou. Merci à Doumbia, qui est en Arabie Saoudite, pour votre temps et votre contribution dans ce dialogue des religions. Eric Mandela.